Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Nous sommes ensemble pour deux heures d'actu avec à mes côtés Marion Calais. Bonsoir Marion.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Et à la une, la guerre de communication cet après-midi. D'un côté, le président ukrainien Zelensky interpelle Joe Biden, appelle l'Amérique à l'aide. De l'autre, Vladimir Poutine muscle en personne sa propagande. Nous allons décrypter ces deux prises de parole dans RTL Soir.
À suivre aussi dans ce journal des habitants devenus combattants. Reportage à Kiev auprès des volontaires de la défense territoriale. On va détailler aussi les aides du gouvernement pour accompagner les entreprises bousculées par la guerre en Ukraine. On sera également en Corse où le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin discute avec les élus locaux après avoir évoqué une possible autonomie de l'île.
À 18h15, notre invité sera l'acteur, le comédien Mathieu Kassovitz qui rentre d'Ukraine où il a rencontré des réfugiés et bien entendu des bénévoles qui se mobilisent pour leur venir en aide. Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, votre volaille et vos œufs coûteront bientôt beaucoup plus cher, la faute à la fois au conflit et à la grippe aviaire. 18h40, on défait le monde. Les 20 minutes d'actu autrement avec Cyprien Signé à la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le menu.
Ce soir, c'est l'enquête corse dont défait le monde. Combien coûte l'île de beauté chaque année à l'État français? Combien rapporte-t-elle aussi? On va tout vous expliquer. Au menu également, l'Ukraine, sourire de l'Eurovision et les Américains fâchés avec leurs horloges.
À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et puis des points météo tout au long de RTL Soir avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Tendance pour demain?
Nuageux et pluvieux du sud-ouest au nord-est.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Et d'abord, donc, cette nouvelle imploration du président ukrainien devant le Congrès américain.
Volodymyr Zelensky, ovationné par les élus américains, avant d'appeler une nouvelle fois dans cette allocution vidéo vibrante à une interdiction du ciel ukrainien aux avions russes, s'appuyant pour cela sur les heures sombres de l'histoire américaine.
Souvenez-vous de Pearl Harbor, cette terrible matinée quand votre ciel a été assombri par les avions qui vous attaquaient. Souvenez-vous du 11 septembre, ce jour terrible de 2001, quand le diable a essayé de transformer vos villes en champs de bataille. J'ai besoin que vous protégiez notre ciel. J'ai besoin de votre aide.
Et comme en écho aux élans historiques du président ukrainien, la prise de parole de Vladimir Poutine à la mi-journée.
Bénédicte Tassar, le maître du Kremlin, lui s'est référé à la Seconde Guerre mondiale pour qualifier les sanctions économiques prises à l'encontre de son pays.
Oui, avec des termes comme blitzkrieg, pogrom antisémite, la télévision russe a retransmis à la mi-journée une allocution du chef du Kremlin à son gouvernement. Vladimir Poutine assure que son opération militaire en Ukraine est un succès, que ce pays ne sera pas une tête de pont pour des actions agressives contre la Russie. Même style de vocabulaire idéologique quand le président russe qualifie les traîtres de mouches que la société russe doit recracher dans un processus d'auto-épuration. Les Occidentaux parient sur des traîtres à la nation, selon lui. Il compare les sanctions occidentales aux persécutions antisémites et il promet des aides financières russes aux Russes, aux particuliers, aux entreprises, pour surmonter cette guerre éclair économique menée par l'Occident.
Ils ont voulu organiser une guerre éclair économique contre la Russie pour nous démoraliser, nous prendre de court. Mais ils n'ont pas réussi. Bien sûr, nous allons faire face à d'autres tentatives pour augmenter la pression sur notre pays. Mais comme d'habitude, face à de telles difficultés, nous allons nous adapter à ces nouvelles réalités.
Alors Poutine reconnaît quand même une situation pas simple et une inflation en hausse. Et aujourd'hui, c'est le premier producteur de voitures en Russie, le groupe Avtovaz, qui est obligé de mettre ses salariés en congé pour 3 semaines, faute de composants.
Les précisions de Bénédicte Tassar pour RTL.
Et à l'instant, la réaction de Joe Biden après l'allocution de Volodymyr Zelensky. Il salue le courage du président ukrainien et des Ukrainiens qui inspirent le monde entier, russe et ukrainien, qui continuent de discuter. Hein, Kiev rejetant la neutralité de son pays demandé par Moscou.
Kiev sous couvre-feu jusqu'à demain matin et avant de se mettre à l'abri. Hier encore, de nombreux habitants de la capitale se préparaient à prendre les armes.
Entraînement, maniement des armes. L'envoyé spécial de RTL, Émilie Beaujard, a pu suivre ces volontaires de la défense territoriale, des habitants de la capitale ukrainienne, bientôt combattants. Reportage.
Ils sont informaticiens, cuisiniers, chefs d'entreprise. Ils ont entre 25 et 35 ans et ils sont volontaires pour intégrer les forces de la défense territoriale. Ce matin-là, c'est sport au milieu des immeubles. Ivan est professeur d'art plastique en temps normal.
On passe des tests pour évaluer notre force physique. Notre groupe n'est pas le plus sportif, nous sommes juste des personnes normales. Mais on se dit que si on ne fait pas ça, alors qui va défendre notre terre? C'est mon cœur qui me guide mes tripes.
Même motivation pour Yuri qui a lâché son métier de maçon pour rejoindre la défense territoriale.
Les Russes essaient de confisquer notre terre, nos maisons, et on ne peut pas les laisser faire. Où on ira vivre sinon? Normalement, je construis des maisons et maintenant j'essaie de les protéger.
Tous ont reçu une arme et ils apprennent aussi à s'en servir. Ils se disent prêts à mourir pour défendre leur vie.
Émilie Bojar à Kiev pour RTL. Cet après-midi, l'armée ukrainienne assure que des civils fuyant la ville assiégée de Mariupol ont été visés par des frappes et qu'il y aurait des morts.
Autorités ukrainiennes qui affirment aussi que dans le nord à Tchernigiv, des militaires russes ont tiré sur des personnes faisant la queue pour acheter du pain. 10 civils auraient été tués.
Elle définit selon le Larousse la résistance au choc d'un matériau ou l'aptitude d'un individu à se reconstruire malgré des circonstances traumatiques. Appliquée à l'économie française sur fond de guerre en Ukraine, elle devient un plan, le plan de résilience du gouvernement présenté tout à l'heure.
Alors Anaïs Bouissou, ce n'est pas le quoi qu'il en coûte, mais on en est parfois pas loin. D'abord pour les particuliers, l'aide de 15 centimes annoncée le week-end dernier va être élargie.
Oui, et en plus de l'essence et du diesel, les moins 15 centimes par litre seront appliqués à deux carburants supplémentaires. Le GPL, le gaz de pétrole liquéfié moins polluant, et le GNV, gaz naturel véhicule, moins connu et fabriqué à base de méthane. Donc davantage de véhicules pourront en bénéficier. Je rajoute que si tout va bien, une ristourne de quelques centimes supplémentaires devrait être appliquée par les distributeurs. On le vérifiera à la pompe, évidemment. Mais en tout cas, Total s'y est déjà engagé.
Et pour les professionnels, Anaïs, coup de pouce sectoriel a commencé par les pêcheurs et les agriculteurs.
Oui, les éleveurs d'abord. Ils auront droit à une nouvelle enveloppe d'aide, 400 millions d'euros. Et vous savez, leurs nouveaux tarifs qui viennent tout juste d'être négociés avec les supermarchés sur les œufs, la viande, les céréales, eh bien, ces tarifs-là, ils vont être revus à la hausse, évidemment. Ça va se voir dans les paniers de course. Pour les pêcheurs maintenant, qui utilisent des tonnes de carburant pour leurs bateaux, s'ils font le plein à partir de demain, ils auront droit à 35 centimes de moins par litre de carburant. Sur une journée de 7 heures de pêche, ça fait rapidement 250 € d'économisés par jour et par bateau.
Les pêcheurs, justement, tiens, on va les entendre après ces annonces. Antoine Decarne a rencontré le patron du comité régional des pêches dans les Hauts-de-France, Olivier Leprêtre.
On ne peut être que content des annonces du gouvernement. Ça, c'est clair qu'on ne s'attendait pas à ça. Le gasoil, c'est le nerf de la guerre. Et dès qu'il y a une forte hausse, on plonge directement. Ce n'est pas dans un mois ou dans six mois, c'est tout de suite. On plonge à l'instant T. On avait des bateaux de stopper. Je pense que ça va pouvoir leur permettre de se remettre au boulot. Il faut à tout prix que les bateaux aillent en mer. C'est une excellente nouvelle.
Voilà, coup de pouce bien accueilli donc par les pêcheurs. Anaïs Bouissou, et ce coup de pouce vaudra aussi pour les entreprises les plus gourmandes en énergie.
Oui, dans la métallurgie, la chimie, les fabricants de papier, les sucreries qui utilisent beaucoup d'électricité ou de gaz. S'ils sont en déficit, leur facture sera quasiment divisée par deux. Et enfin, c'est le retour des mesures Covid. Les prêts garantis par l'État, les réductions de charges, l'activité partielle, ces aides vont être remises sur la table avec tout un tas de nouveaux plafonds, de nouveaux critères. Ce plan, Jean Castex l'a dit, sera évolutif. Les lignes d'aide budgétaire bougeront en fonction de l'ampleur des blocages économiques.
Merci Anaïs Bouissou, et j'ajoute que selon l'INSEE, l'inflation pourrait dépasser les 4% au mois de mars.
On précise qu'à Lorient, le blocage du dépôt pétrolier a été quand même prolongé, malgré ces annonces. Votre journal va se poursuivre dans un instant avec le déplacement de Gérald Darmanin en Corse. Alors, autonomie ou pas autonomie? A tout de suite.
RTL Soir
avec Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h10, la suite de votre journal. Il a joué carte sur table, évoquant ce matin une possible autonomie de la Corse. Gérald Darmanin, face aux élus locaux de l'île de Beauté, ça se passe en ce moment même.
Oui, déplacement du ministre de l'Intérieur qui fait suite aux manifestations violentes des deux dernières semaines après l'agression d'Yvon Colonna à la prison d'Arles. Hugo Hamelin, vous êtes à Ajaccio pour RTL. Troisième réunion en cours pour Gérald Darmanin.
Absolument. D'abord les costumes cravates des élus corses et puis ensuite les treillis des militants nationalistes. Gérald Darmanin a choisi de diviser ses entrevues insulaires sur la faisabilité d'une autonomie plus grande pour l'île de Beauté. Alors les premiers élus viennent de sortir de la réunion et le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli, estime en filigrane, vous allez l'entendre, que ces réunions en petit comité, elles ne seront pas assez suffisantes pour faire avancer le dossier corse.
Je considère qu'il ne faut pas piéger les mots. Je crois que ce débat, on doit l'avoir avec l'ensemble de la société corse. Pourquoi pas, demain, une fois que les idées se seront rapprochées, se seront échangées par la voie d'un référendum qui fera appel à l'ensemble du peuple corse pour qu'il se détermine pour son avenir. Parce que je considère que la démocratie ne doit pas se jouer dans une assemblée ou dans un comité théodule, mais également avec des bulletins de vote et avec des feuilles d'émargement.
Alors une deuxième réunion démarre entre le ministre et les mouvements nationalistes. En ce moment, il sera aussi question, forcément, sujet des débordements insurrectionnels qu'on a pu voir lors de certaines manifestations.
Des négociations sur lesquelles le FLNC a mis un coup de pression cet après-midi, Hugo.
Oui, un communiqué qui a été glissé dans la boîte aux lettres du journal local, hein, c'est très à l'ancienne, et qui explique donc que le FLNC soutient les actions virulentes des étudiants et que si les promesses de Gérald Darmanin ne sont pas tenues, il pourrait prendre le relais de façon assez mystérieuse, hein, c'est pas très explicite. Le FLNC qui est aujourd'hui divisé en deux, voire trois branches, qui représentent quelques dizaines de personnes seulement, c'est un groupuscule qui n'a plus rien à voir avec celui des années 90, me confie un journaliste local.
Hugo Hamelin à Ajaccio. Pour RTL. Le laboratoire allemand Merck, définitivement condamné à indemniser plus de 3000 utilisateurs du Levothyrox ayant souffert d'effets secondaires après le changement de formule de son médicament. La Cour de cassation a rejeté aujourd'hui son pourvoi. Des matchs épiques qui se terminent parfois entre chiens et loups. Vous vous souvenez peut-être de l'affrontement entre John Isner et Nicolas Mahut à Roland-Garros. Eh bien, ces souvenirs risquent bien de rester au panthéon du tennis sans jamais être égalés.
Les quatre tournois du Grand Chelem se sont en effet mis d'accord pour mettre en place un super tie-break décisif dans le cinquième set. Concrètement, quand il y a 6 partout dans la dernière manche, eh bien le vainqueur sera celui qui l'emportera sur 10 points gagnants avec 2 points d'écart.
Oui, mieux pour les joueurs, pas pire pour le spectacle, assure la patronne de Roland-Garros, Amélie Mauresmo.
Pour le tennis en général, je pense que c'est une bonne avancée. Je pense que pour les joueurs et les joueuses, en termes de récupération, quand vous partez sur du 12-10, sur du 16-14, très honnêtement, votre tournoi il est quand même un petit peu hypothéqué. Déjà d'aller aussi loin dans une dernière manche, ça peut être compliqué. Mais là, c'est souvent mission impossible. Donc c'est vrai que c'est un gros changement, que ça ne plaira pas à tout le monde, notamment aux puristes. Mais je crois qu'aujourd'hui, pour les fans aussi, pour la programmation télé, mais pour la nôtre aussi au quotidien sur le tournoi, on a voulu s'inscrire dans de la cohérence vraiment avec les autres tournois du Grand Chelem.
Amélie Mauresmo au micro RTL d'Isabelle Langer, Roland Garros par ailleurs, qui autorisera joueurs russes, bélarusses et non vaccinés, comprenez notamment évidemment Novak Djokovic, à participer au tournoi. En tout cas, pour l'instant, selon les mots de la Fédération française de tennis. Et puis, le LOSC parviendra-t-il à sauver l'honneur des clubs français en Ligue des Champions après l'élimination du PSG la semaine dernière? Lille affronte ce soir Chelsea au stade Pierre-Mauroy, 8e de finale retour après une défaite 2-0 à l'aller.
Et Lille-Chelsea, ce sera à suivre en direct ce soir sur RTL. Le coup d'envoi à 21h, bien entendu. À tout à l'heure, Marion.
À tout à l'heure.
Le temps, alors... Déjà, on va mettre les choses au clair.
Oh là là.
Vous nous aviez promis une journée printanière,
oui,
un joli soleil.
C'est vrai.
Et il a fait 13 degrés et il va pleuvoir ce soir.
13 degrés, mais vous exagérez.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Et on a fait 17, c'est vrai.
17
et... à Paris, en tout cas. Et c'est vrai que le ciel n'était pas aussi lumineux que ce qu'on avait prévu. Vous savez, les poussières de sable du Sahara dont on parlait hier, eh bien c'est ça. Il y a eu un peu plus de nuages et ces poussières-là sont remontées et on en a eu beaucoup. Et c'est vrai que du coup, ça a rendu le ciel opaque. Et vous en avez vu certainement sur votre voiture, votre moto ou votre scooter, qui a dû être rempli de poussière. Donc voilà,
oui.
Et c'est ça, c'est ce phénomène-là. Exactement. Et ben c'est ce phénomène-là qui fait que le ciel était plus opaque, beaucoup plus opaque que prévu. Je vais commencer par les bonnes nouvelles demain, si vous voulez bien. Du soleil sur le nord-ouest. Et là, vous allez me dire, oui, bien sûr, comme aujourd'hui.
On vous croit.
Le vent tourne, donc du coup, normalement, ça devrait chasser ce sable. On aura du soleil sur le nord-ouest entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France et la Vendée. En revanche, la perturbation d'aujourd'hui, elle va se décaler du sud-ouest au nord-est. Elle va stagner toute la journée avec des averses soutenues dans la partie sud. Et sur le sud-est, ça restera encore bien, bien voilé. Le tout sous des températures en légère baisse. On se couvre le matin de 4 à 8 degrés au nord, jusqu'à 11 dans le sud. Et les maximales de 11 au Havre, jusqu'à 19 à Grenoble, 12 à Biarritz, 14 à Paris, 16 à Lyon. Mais on se rapproche des valeurs de saison.
Merci Peggy. Petite pause et puis ensuite notre invité sur RTL, dans RTL Soir, sera l'acteur Mathieu Kassovitz. Il rentre d'Ukraine, il va nous raconter ce qu'il a vu, ses rencontres à Lviv et à la frontière où des milliers de réfugiés fuient les combats chaque jour. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier.
Saviez-vous que...
Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
Bonne fin de journée, 18h19, vous écoutez RTL Soir et notre invité maintenant rentre tout juste d'Ukraine, c'est l'acteur Mathieu Kassovitz. Bonsoir.
Bonsoir, je suis désolé de ne pas être avec vous en studio, mais je suis bloqué dans Paris.
Mais oui, visiblement il y a des embouteillages. Alors on ne va pas faire d'infotrafic avec vous, on va parler de l'Ukraine parce que c'est beaucoup plus important. Et déjà merci d'être avec nous Mathieu Kassovitz, parce que vous étiez ces derniers jours à Lviv, dans l'ouest du pays, avec l'artiste et photographe JR qui a installé une grande fresque temporaire au cœur de la ville. Et c'est une fresque très symbolique, est-ce que vous pouvez nous la décrire déjà ?
Il a photographié une petite fille qui, au moment où elle passait la frontière, une petite fille qui joue et qui sourit et qui regarde vers le ciel. Et il en a fait une énorme bâche qu'il a posée au milieu de la ville de Lviv et qui va être la couverture du prochain Time Magazine pour alerter les gens et pour faire parler du sujet.
Alors, il y a deux symboles. Un, la fresque est visible du ciel et on sait que l'enfer vient du ciel aujourd'hui en Ukraine. Et deux, elle parle donc des enfants. Et c'est vrai que sur les vidéos que vous avez postées, par exemple, sur les réseaux sociaux à la frontière notamment, on entend leurs petites voix. On les voit marcher avec des sacs qui sont trop grands pour eux. Ce sont vraiment des images qui serrent le cœur, j'imagine.
C'est terrible parce qu'on voit effectivement... C'est des lignes qui durent sur plusieurs kilomètres, sur 5 mètres de large, sur tout un trottoir avec des familles entières réunies. C'est généralement des femmes et des enfants en bas âge qui attendent plusieurs jours, plusieurs nuits dans le froid, qui ne peuvent pas dormir parce que la frontière est ouverte 24 heures sur 24, même si ça va très lentement. Les gens continuent d'avancer, qu'ils arrivent de l'autre côté, qu'ils sont très bien reçus par les Polonais. Mais qu'on voit des scènes très difficiles de parents qui doivent laisser leurs enfants, de pères qui doivent laisser leur famille, et des choses qui, si la solution n'est pas trouvée dans le mois qui arrive, ça va s'envenimer, ça va devenir un vrai problème à gérer.
Alors, à la frontière, côté polonais, vous avez croisé ceux qui accueillent les réfugiés, et vous avez souhaité qu'on leur donne la parole ce soir, donc cet après-midi, on a passé deux coups de téléphone à deux bénévoles que vous avez rencontrés. Tout d'abord, il y a Lilian, chef d'entreprise bordelais, qui se déguise en pirate pour faire sourire les enfants à la frontière. Et puis, il y a Nicolas, qui gère la logistique et tout l'humanitaire, quelque part, sur ce poste frontière. Écoutez-les.
Je regardais la télévision, je regardais ce qui se passait. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. J'ai pris ma voiture, j'ai fait le tour des pharmacies, j'ai fait le tour des petits Carrefour City qu'il y avait au Chartron à Bordeaux. J'ai dit, je me spécialise bébé, je sais pas pourquoi, j'ai des lingettes, des couches, des biberons, du lait. J'ai mon beau-frère qui m'a prêté un Kangoo long. En fait, on a rempli les voitures parce que les voisins sont venus jusqu'au soir pour nous filer plein de choses. Puis là, on est parti, on savait pas où on allait. Quand on est arrivé à Modica, on a mis tous les cartons dès le premier soir. Il y avait des milliers, des milliers, des milliers de personnes avec des milliers de bébés. De bébés.
Et aussi, ce qui est important pour nous, c'est tout l'approvisionnement, nourriture, couettes, gants, pour réchauffer les gens qui attendent ici de 2 à 10 heures pour le transport.
C'est incroyable d'émotion. Je suis quelqu'un de très solide, j'ai pleuré deux fois. Il y a une dame de 83 ans qui arrive en boitant avec un bébé dans un landau qui a 5 mois, qui pleure, qui pleure, qui pleure. Et elle montre ses seins, donc elle nous demande du lait. On lui file un biberon, on lui file de l'eau. Et là, on lui dit, mais elle est où votre fille, là, madame ? Ma fille, elle est décédée, elle est morte. Quoi. Ah bon, d'accord, décédée. Et alors, votre gendre, il est où, gender ? Ah bah, le gender, il est à la guerre. Ah d'accord.
Combien de temps vous comptez rester là-bas encore, à la frontière ?
Bah là, ça fait 8 jours que je suis ici, moi. Bah nous, il faut qu'on aille se reposer un petit peu, parce qu'on dort dans nos voitures, on dort dans nos tentes.
On a énormément de bénévoles qui arrivent. Le problème, c'est que je n'ai pas vraiment comment les loger. Donc ici, ce qu'on a besoin, c'est surtout de l'aide financière au niveau de logement, de sanitaire et de chauffement pour nos bénévoles qui ont décidé de changer un peu leur vie et de rester ici et d'aider.
Si il y a des Français qui veulent donner 2 jours, 3 jours, 4 jours, qui veulent venir ici, c'est avec plaisir. Tout le monde peut venir nous aider.
Lilian et Nicolas, deux bénévoles que vous avez rencontrés à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, Mathieu Kassovitz, qui ont été joints cet après-midi par Arthur Askin pour RTL.
Non, Lilian est un bénévole qui est arrivé de France, vraiment un amateur à vos grands cœurs. Oui. Mais Nicolas est celui qui organise tout le camp, parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il n'y a pas de grosses ONG qui sont là pour l'instant. Ces gens qui sont bénévoles, qui devraient arriver pour proposer leurs services aux ONG, se retrouvent eux-mêmes responsables de choses dont ils ne devraient pas être responsables.
Exactement. C'est un peu le système D. Vous avez envie de faire passer aussi ce message-là ce soir à nos auditeurs? Tous, à notre échelle, on est concernés, on doit se mobiliser aujourd'hui.
Évidemment, comme dans tous les cas, mais là, c'est vrai qu'on est dans une situation de guerre. On rentre dans un pays en guerre et on a, par la situation, des pères qui restent faire la guerre et des femmes, des enfants qui sortent par un million par semaine. Ils sont quasiment 100 000 par jour à passer par ces 8 postes frontières en Pologne. C'est 90% du passage de ces gens qui partent de chez eux sans rien et qui ne savent pas s'ils vont retourner. Donc ce flux migratoire qui va commencer à arriver, il va falloir le gérer d'une manière de plus en plus sérieuse et de plus en plus forte, puisque ça ne va pas s'arrêter. Si jamais les Russes continuent à mettre la pression sur l'Ukraine, on va se retrouver avec des queues qui vont durer pendant plusieurs semaines avant de pouvoir sortir d'un pays et de se retrouver avec un vrai problème migratoire.
Vous avez échangé à la fois avec des personnes évidemment qui partaient vers la Pologne, mais aussi avec des Ukrainiens à Lviv, donc c'est la ville de l'ouest du pays, relativement épargnée pour l'instant par les bombardements. Qu'est-ce qui vous a marqué? Parce que nos envoyés spéciaux en Ukraine, que ce soit à Lviv, que ce soit à Kiev, ils sont assez impressionnés par l'absence de panique dans la population. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué aussi, cette résilience?
Vous savez, les Ukrainiens, moi j'ai eu la chance de tourner en Ukraine avec le Bureau des légendes deux saisons d'affilée. Et on est arrivé à l'époque du Donbass. Et quand on est arrivé à l'époque du Donbass, ils avaient déjà, quelques années avant, fait la révolte de Orange. C'est des gens qui ont l'habitude et qui sont résilients et qui savent que rien n'est acquis et qu'il faut toujours se battre. C'est exactement ce qu'on voit dans les rues et c'est ce qu'on voit par rapport aux Russes, la façon dont ils se comportent et la façon dont ils résistent. Cette résilience-là du pays, de ces gens-là, j'ai parlé avec des jeunes de 19 ans, habillés en militaire, qui me disent, il y a deux semaines j'étais étudiant en architecture, aujourd'hui j'apprends les armes parce que je suis réserviste et je vais devoir peut-être me battre. C'est très très fort et c'est au-delà de leur combat, on est en train vraiment de se rendre compte que c'est un combat du juste et de l'injuste, de David contre Goliath, et que si les Russes gagnent, on a vraiment des questions à se poser sur le futur de notre civilisation. Si pour une fois les Ukrainiens arrivent à résister et que on revient dans une certaine équilibre, d'une manière ou d'une autre, je n'arrive pas à imaginer, mais je sais qu'ils vont résister jusqu'au bout.
Merci Mathieu Kassovitz d'avoir été avec nous ce soir sur RTL. Vous, l'acteur, le comédien, on rappelle que vous rentrez donc d'Ukraine, vous étiez à Lviv dans l'ouest du pays il y a seulement quelques jours. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur RTL. Allez-y.
Un dernier truc, si vous voulez me suivre sur Instagram pour pouvoir suivre les gens qui sont directement sur le terrain et vous pouvez les aider directement en leur parlant en direct. Donc Lilian, tous ces gens-là, ces Français qui sont là-bas, sont accessibles sur Instagram, vous pouvez les trouver.
Merci Mathieu Kassovitz d'avoir été notre invité ce soir sur RTL. Petite pause dans cette émission et ensuite il y aura de vos dessous de l'actu avec les conséquences inattendues de ce conflit. La volaille et les œufs coûteront sans doute beaucoup plus cher dans les semaines à venir. On va tout vous expliquer et puis laissez-vous tenter dernière avec le retour du rock à l'allemande, le rock des scorpions. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier.
Bonne fin de journée, il est 18h31.
Julien Sellier.
RTL Soir.
RTL Soir qui vous informe, on rappelle les grands titres de l'actualité, Marion Calais.
Et après le vibrant appel de Volodymyr Zelensky devant le Congrès américain, la réponse de Joe Biden, ce soir le président des États-Unis porte à 1 milliard de dollars l'aide militaire à l'Ukraine avec envoi de drones et de systèmes de défense antiaérienne à plus longue portée. Le soutien du gouvernement français aux entreprises les plus touchées par la guerre en Ukraine, la remise de 15 centimes par litre de carburant sera sera étendu notamment au GPL, ça c'est pour les particuliers. Dès demain par ailleurs, les pêcheurs bénéficieront d'une aide de 35 centimes par litre de gasoil jusqu'à fin juillet. Et puis du foot ce soir, Lille-Chelsea, 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Coup d'envoi 21h, le LOSC avait perdu 2-0 à l'aller.
Merci Marion, bon match. Le temps pour demain, cher Peggy.
Retour du soleil sur le nord-ouest puisque le vent va tourner, va pouvoir chasser le sable en provenance du Sahara, donc on devrait retrouver des éclaircies sur le nord-ouest toute la journée. En revanche, la perturbation d'aujourd'hui sur le nord-ouest, elle sera demain du sud-ouest au nord-est, elle va stagner avec des pluies plus soutenues dans sa partie sud et dans le sud-est, ce sera un temps sec mais bien voilé, le tout sous des températures qui vont baisser mais qui seront proches des valeurs de saison, de 12 à 16 au nord et de 14 à 19 au sud.
Merci Peggy.
RTL Soir,
les dessous de l'actu.
Et dans les dessous de l'actu ce soir, les dessous d'une hausse des prix plus 10% à minima sur les œufs, sur le poulet dans les semaines à venir. Est-ce que le plan de résilience annoncé cet après-midi par le gouvernement suffira à protéger la filière et donc le consommateur? Pas certain, la profession met en garde, la crise est profonde et RTL l'a constaté sur le terrain cet après-midi. Bonsoir Christian Panvert.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Vous avez rencontré Blandine, Blandine Terrier pour RTL, éleveuse de volailles en Sologne. Alors il y avait déjà la grippe aviaire, il y a maintenant la guerre en Ukraine, c'est une double peine, vraiment qui met en péril son entreprise aujourd'hui.
Oui, Blandine Terrier, 55 ans, fait partie des 300 éleveurs de la région centre qui sont obligés de mettre leur élevage sous cloche. Vous entendez peut-être derrière moi les volailles qui sont enfermées et ne peuvent pas gambader dans les prés, ce qui désespère bien sûr Blandine.
Alors moi je suis en Sologne, en plein cœur de la migration, avec des oiseaux qui volent au-dessus. On fait attention, mes volailles sont fermées depuis fin septembre et seront réouvertes qu'à partir de mai.
Donc les conditions d'exploitation sont déjà très difficiles et avec le conflit en Ukraine, ça devient même infernal.
Et oui, elle subit de plein fouet la flambée des prix et des matières premières comme le gaz.
Les chiffres concrets, c'est 195 euros d'augmentation depuis le 1er janvier. Donc on est à pratiquement 1000 euros la tonne. On consomme environ une tonne de gaz à peu près en moyenne entre l'hiver et l'été. Donc vous voyez, il y a déjà pratiquement 1000 euros qui partent. Rien que pour la partie énergie. Les céréales, pour certaines, ont doublé, voire triplé. Ça a pris pratiquement en un mois la 30 euros la tonne d'aliments. Donc, il faut que nos poulets, au niveau des abattoirs, ils montent environ de 100 euros la tonne. Et je sais qu'aujourd'hui, les abattoirs ne sont pas prêts à monter. Ils n'arrivent pas à faire passer les hausses auprès de la grande distribution.
Alors, en résumé, s'il n'y a pas d'accord avec les acheteurs, eh bien, Blandine Terrier devra prendre une décision radicale.
Si demain, je n'ai pas le résultat, je pense que je confirmerai avec des bâtiments, ça c'est sûr. C'est inédit.
Elle aura forcément pour conséquence une hausse considérable des prix. On pourrait même, dit-elle, manquer de poulet dans 6 mois.
Les craintes de Blandine, les dessous de la crise de la volaille en Sologne avec Christian Panvert pour RTL. Merci Christian.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
RTL 18h34.
Laissez-vous tenter, dernière.
Alors on a bien besoin en ce moment de ce petit jingle et de cette respiration qu'est Laissez-vous tenter dernière. De chouettes conseils pour penser à autre chose de la bande de LVT. Steven Bellery est avec nous ce soir. Bonsoir Steven.
Bonsoir à tous.
Alors on va parler rock ce soir. 7 ans après son précédent album Scorpion est de retour. Le groupe allemand vient de publier Rock Believer. C'est son 19e disque. Quand même vous avez rencontré les deux cofondateurs.
Oui, Klaus Main, le chanteur et parolier, et Rudolf Schenker, guitariste rythmique et compositeur. Ils ont tous les deux 74 ans aujourd'hui. Scorpion revient avec 11 inédits, un disque très tendu et incandescent. Rudolf Schenker.
On est des croyants du rock depuis les années 1965, au moins. Tout a commencé avec Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley, puis les Beatles, les Rolling Stones, et on s'est dit, mais oui, c'est ça qu'on veut faire, de la musique avec des potes et des bons musiciens. On croit toujours en la force du rock et aujourd'hui, on a 3 générations devant notre scène, des gamins et des anciens. C'est fantastique. On a toujours eu en tête de créer des ponts entre les continents, les langues, les cultures. Et on l'a fait depuis l'Allemagne et ça n'était pas si simple avec une musique qui venait des États-Unis et d'Angleterre. Mais on l'a fait.
Nouvel album donc en forme de retour aux sources, on l'a compris. Album qui marque
Un demi-siècle de carrière quand même pour Scorpion.
Ouais, c'est assez fou. Scorpion fêtera cet anniversaire dès le 13 mai à Toulouse. Première des 7 dates que comptera leur tournée française, dont Paris-Bercy le 17 mai et le Hellfest le 23 juin. Les Allemands n'ont rien changé en fait à leur recette, ni succombé au grunge par exemple. Peut-être une des raisons de leur longévité, Klaus Main.
Nous ne sommes peut-être pas fiers, mais heureux et reconnaissants pour cet incroyable parcours. 50 ans qu'on fait des chansons. On essaye de ne pas trop y penser. C'est tellement génial d'être toujours en vie, d'être toujours aussi fort, de ne pas avoir perdu la passion. Les Français nous ont toujours traités comme des rois, c'est vraiment émouvant. On est si heureux.
Et là voilà la fameuse balade signée Scorpion, elle clôt Rock Believer, c'est leur nouvel album, il vient de sortir.
19e album, 74 ans, ils ne les font pas.
Ah ouais, non, ils chantent surtout très écoute. Très bien Klaus Main, l'une des plus belles voix du rock.
Merci beaucoup Steven.
Laissez-vous tenter, dernière.
Allez, petite pause et maintenant on va défaire le monde dans RTL Soir avec un fan de Scorpion, ah Cyprien Sini, avec Laurent Tessier. Tous les deux, vous avez un peu de mal à secouer les cheveux sur les chansons de Scorpion.
On a plus les cheveux. Mais ouais, c'est plus les slow Scorpion.
Il n'y a pas grand chose en même temps.
Pour Céline Landreau, c'est plus simple. Bonsoir les amis.
Bonsoir à tous.
Allez, dans un instant, on va défaire non pas Scorpion, mais la Corse en pleine négociation. Ça se passe en ce moment là avec le ministre de l'Intérieur sur une potentielle autonomie. La Corse, combien elle coûte à l'État? Combien elle rapporte? On va se plonger dans les comptes insulaires. Juste après ça, tout de suite.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.